Chapitre 2. La fille à la couronne de fleurs. Zizo préféra s'éloigner du fleuve et s'aventurer dans les petites rues. Le chemin était plus court et il rejoindrait le bord de l'eau un peu plus loin, bien avant le sanctuaire, par le pont de la place de l'Aiguille. Le soleil brillait déjà au-dessus de la ville, sans le moindre nuage dans le ciel. Zizo, comme tous les autres enfants du tipi, aimait plus que tout les journées chaudes qui suivaient le birthday. Elles étaient les plus longues de l'année. Le soleil se levait encore plus tôt qu'Agnelle le matin et ne semblait jamais avoir envie de se coucher. Les petites rues possédaient deux autres avantages. Elles permettaient d'échapper au soleil brûlant en marchant à l'ombre des bâtiments et elles fournissaient des cachettes plus sûres. En s'y faufilant, Zizo risquait moins d'être repéré. Il savait que les enfants du château, pour protéger leur refuge, s'avançaient parfois sur les ponts les plus proches et surveillaient les alentours. Du coup, la plupart des enfants du tipi hésitaient à s'aventurer loin dans la ville, par peur des mauvaises rencontres ou de se perdre. « Se perdre ?» pensait Zizo. « C'était une crainte ridicule. » La flèche de fer du tipi se voyait de partout, si haute qu'elle dépassait toutes les maisons. Il n'y avait qu'à lever les yeux et marcher vers elle. Pourtant, les compagnons de Zizo continuaient d'explorer les bois et ne s'enfonçaient dans la ville que lorsque Hakan les y obligeait, en restant alors en groupe. Zizo, à l'inverse, sans qu'il sache vraiment pourquoi, aimait la ville. Il l'explorait seul, souvent, et parvenait toujours à s'y repérer. Ça lui semblait simple, au fond. Il suffisait de mémoriser les noms de tous les M, puis d'afficher dans sa tête une grande carte dont les M étaient des points reliés à des lignes invisibles qui se croisaient, celles qu'il devinait sous terre et où il ne s'était jamais aventuré. Pour faciliter encore son orientation, il avait d'ailleurs remarqué que tous les M de la même ligne possédaient une couleur identique. C'était comme tresser un panier ou un tapis avec des feuilles séchées de différentes teintes. Nadir, le meilleur tisseur du tipi, devait faire ainsi, voir les couleurs entrelacées et laisser ensuite ses mains faire. Zizo, lui, visualisait la tresse des M dans sa tête et laissait ensuite ses pieds faire. La tour Maubourg. Invalide. Il traversa en courant le grand champ d'herbe à découvert, presque aussi large que celui sous le tipi, sans même jeter un œil au gland d'or, l'interminable bâtiment qu'il longeait et qu'il avait surnommé ainsi à cause de sa tour arrondie. Il s'arrêta dans la première rue face à lui, un instant, pour souffler. Le soleil de fer se tenait pile au-dessus de lui, moins dangereux que celui de feu. Rien qu'à sprinter 100 mètres pour traverser le champ, Zizo était couvert de sueur. Ne pas traîner. Il s'épongea le front d'un revers de main et se remit en route. Tout en marchant de nouveau à l'abri dans l'ombre des maisons hautes, Zizo ne cessait de se poser des questions. C'était avant tout pour ça qu'il aimait s'aventurer pendant des heures dans la ville. Tout était étrange. Rien n'avait de sens. Ou alors, un sens qui lui échappait. La vie se trouvait dans les bois autour de la ville. L'eau, les animaux, les plantes. Les fruits, rien, ou presque, ne vivait dans les rues à part les oiseaux, les insectes, des chats sauvages, quelques chiens errants et les arbres prisonniers de grilles de fer. Tout était mort ici, mais Zizo savait que d'autres hommes, des adultes, avaient construit la ville il y a longtemps. Ils avaient dû passer toute leur vie à la bâtir, à empiler les pierres des murs du château ou assembler les barres de fer du tipi. Zizo n'avait aucune idée des outils fantastiques que ces adultes, avant qu'ils naissent, avaient dû utiliser pour parvenir à un tel résultat. Ces tours qui touchaient presque le ciel, ces pierres sculptées à des dizaines de mètres de hauteur, mais après tout, ils s'en fichaient. Il y avait toujours des enfants ingénieux pour trouver des solutions à tout, construire des échelles de branches plus solides, recouvrir des pots avec de la graisse pour que la pluie glisse dessus, retenir la chaleur du feu dans des fours de pierre, faire cuire de la terre rouge jusqu'à ce qu'elle soit aussi dure qu'une brique. Non, ce qui l'intéressait, ce n'était pas comment les hommes d'avant avaient fait pour construire la ville. C'était pourquoi. C'était ce que signifiait chaque détail. Et il y en avait des milliers. Par exemple, Que signifiaient ces lignes blanches peintes au milieu des rues? Zizo en découvrait partout, généralement quand les rues se croisaient, mais pas seulement. Parfois une seule ligne, parfois plusieurs parallèles quand les rues étaient plus larges. Ces peintures blanches ressemblaient aux signes de guerre que les enfants du tipi se traçaient sur les joues quand ils jouaient. Pourquoi les avoir dessinées sur toutes ces rues grises? À quoi pouvaient-elles servir? Un nouveau trou de M. Assemblée nationale. Zizo continuait d'avancer en prenant soin de rester caché dans l'ombre des bâtiments, du côté le moins ensoleillé de la rue. Une question, parmi mille, tournait dans sa tête. Le long des rues, certains murs étaient faits de pierres, de briques, avec des portes et des fenêtres, mais d'autres n'étaient constitués que de grandes vitres de verre, du sol au plafond. On pouvait donc tout voir à l'intérieur de certaines maisons, et c'était impossible pour d'autres. Dans certaines rues, presque toutes les maisons étaient transparentes, et dans d'autres, aucune. Pourquoi? Certains habitants d'avant avaient-ils envie qu'on les voie, et d'autres non? Zizo n'avait trouvé aucune explication dans les quelques livres qui circulaient dans le tipi. Il savait que Mordelia en conservait quelques-uns au quatrième étage ou dans le sac qu'elle traînait partout. Elle était quasiment la seule. Presque tous les enfants du tipi, à part Agnelle et son livre de dessins d'oiseaux, se fichaient bien de lire. La plupart avaient même oublié, petit à petit, comment déchiffrer les lettres et n'y voyaient rien d'autre que des pattes d'insectes écrasées. Lui, non. Zizo en était convaincu. Savoir lire était utile. Il ne fallait jamais l'oublier. Ne serait-ce que pour se repérer? Musée d'Orsay. Le fleuve était à nouveau en vue. Il allait devoir le traverser. Le château se trouvait juste en face, précédé de son immense champ d'arbres parfaitement alignés. Tous étaient en fleurs, roses et blanches, ces fleurs qui, dans quelques mois, se transformeraient en pommes, en poire, en cerise. C'était incroyablement joli. Trop joli, pensa Zizo. Comme un piège, comme ces fleurs qui se servent de leur couleur pour attirer les abeilles. C'était Agnelle qui l'avait remarqué. Les abeilles et les papillons se posent toujours en premier sur les fleurs les plus colorées. Zizo devait maintenant traverser le fleuve, passer sur le pont de pierre pour rejoindre la grande place de l'aiguille. Il écarquillait les yeux, guettant le moindre signe de vie entre les arbres. Rien ne bougeait pourtant. Il commençait à comprendre pourquoi Akane et Mordelia l'avaient choisi, lui. Aucun de ses amis du tipi n'aurait osé s'approcher aussi près du château. Leur domaine était là, de l'autre côté du fleuve. Même s'ils ne connaissaient presque rien, au fond, des enfants du château, les pires rumeurs couraient sur eux. Par exemple, on ne savait pas de quoi ils se nourrissaient, puisqu'on ne les voyait jamais chasser ou pêcher. On ne les croisait jamais dans la forêt. Alors, certains, comme Chrysante, prétendaient qu'ils dévoraient les garçons et les filles qui s'approchaient trop près de chez eux, ou se mangeaient entre eux s'ils n'en attrapaient pas. D'autres racontaient qu'ils n'avaient pas d'yeux, ou ne voyaient rien à la lumière, comme les taupes, les vers de terre, toutes ces bêtes qui vivent sous terre, puisqu'on ne les apercevait presque jamais en surface. Ils vivaient, se déplaçaient, uniquement dans le M. C'était stupide. Les enfants du château voyaient très bien au point de se sauver et de disparaître dans un trou dès que, de très loin, ils se sentaient repérés. Comme des lapins rentrent dans leur terrier, pensait Zizo. Il avait plutôt l'impression que ceux du château avaient peur d'eux. Craignaient les filles et les garçons du tipi qui vivaient à l'air libre, dominant la ville dans leur immense tour de fer. Mais, aussi courageux qu'était Zizo, jamais il n'aurait imaginé essayer de les apprivoiser. Cela aurait été aussi fou que de chercher à caresser un loup. Ça y est, Zizo avait traversé le pont et atteint l'autre rive. Toujours aucune trace de vie. Même pas un seul de ces chiens sauvages qui s'aventuraient parfois jusqu'au cœur de la ville. Zizo avait appris à les faire fuir avec un caillou ou un bâton quand ils étaient seuls, et à leur échapper en grimpant dans un arbre ou en escaladant une maison quand ils croisaient une meute. Ils se trouvaient maintenant au bord du long champ qui bordait le fleuve et apercevaient le château et sa pyramide tout au bout, au loin. Zizo bloqua sa respiration. surveilla une dernière fois les alentours et sprinta d'un coup pour traverser la place de l'Aiguille à découvert. Il savait que c'était l'une des plus grandes places de toute la ville et qu'il ne serait à l'abri que parvenu en face, dans cette grande rue droite bordée de dizaines de colonnes de pierre derrière lesquelles on pouvait facilement se cacher. Tout en courant, Zizo ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à l'aiguille et surtout à ces dessins étranges qu'il était incapable de déchiffrer. Encore un mystère à percer. Qui les avait dessinés? Les hommes d'avant? Ceux qui avaient fabriqué le soleil de fer? Ceux qui programmaient le spectacle de minuit à chaque birthday? Ceux qui avaient décidé qu'il durerait 30 minutes et pas une de plus? Qui étaient ces hommes? Où étaient-ils? Que voulaient-ils? Zizo souffla. Il avait atteint la rue opposée. Il aimait bien son nom, Rivoli, facile à retenir. Il ne lui restait plus qu'à avancer à saut de grenouille, colonne après colonne, en restant dans l'ombre. Les murs du château se trouvaient un peu plus loin, juste la rue à traverser. Jamais il ne s'était aventuré aussi près. Tout en progressant, Zizo ne cessait de fixer le mur d'en face, haut de 3 étages, beaucoup moins haut que le tipi. Combien d'enfants pouvaient vivre ici? En tout cas, il ne repérait toujours aucun signe de vie, ni dans les rues, ni derrière les fenêtres fermées par des barres de fer. Au fur et à mesure que Zizo avançait, pilier après pilier, son regard s'hypnotisait sur le mur opposé. Des dizaines de statues grises étaient sculptées entre chaque fenêtre. Il pouvait en lire les noms. Lafayette, McDonald, Murat. C'était la première fois que Zizo voyait autant d'adultes. Même si ce n'était que des blocs de pierre, c'était donc à ça qu'il ressemblerait dans quelques années? C'était la taille qu'il atteindrait? Porterait-il lui aussi des poils autour de la bouche et sur le menton? Son visage deviendrait-il aussi ridé? Et les filles? Est-ce que les filles ne devenaient jamais adultes, puisqu'il n'y en avait aucune parmi cette galerie d'hommes statufiés puis accrochés au mur, comme s'ils avaient pris un bain de boue et qu'ils avaient séché sur place sans jamais tomber en poussière? Zizo avançait toujours, colonne après colonne, laissant derrière lui des maisons aux murs de verre, contrastant en face avec la façade de pierre du château. Mystère. Zizo s'arrêta soudain. Une des fenêtres était ouverte, au 3e étage, face à lui. Ou plutôt, l'une des rares fenêtres, qui n'était pas protégée par des barreaux, était brisée. Le vent s'y engouffrait et faisait voler le tissu à l'intérieur. Une idée folle naissait dans sa tête. Traverser la rue, escalader le mur du château, passer la tête, seulement la tête, par la fenêtre. Regardez, une seconde, puis se sauver à toutes jambes et aller tout raconter à Akan et Mordelia. C'était l'occasion rêvée. Peut-être cette ouverture serait-elle réparée dans la journée, comme sur le tipi, il ne laissait jamais une toile ou une peau décousue, de peur que le vent ne s'engouffre et n'en déchire un pan entier. C'était déjà arrivé l'année dernière, après la grande battue. Au 1er étage, les enfants qui y dormaient avaient failli mourir de froid. Zizo n'eut aucune difficulté à escalader le mur du château. Il prit appui sur le socle d'un homme en uniforme, attrapa ses 2 bottes, s'accrocha à son épée pour se hisser au balcon de la fenêtre. Il resta un instant, le nez collé au trou de la vitre brisée. Ce qu'il découvrit le stupéfia. Une grande salle, très blanche, très haute de plafond, dans laquelle étaient disposées 10 de statues géantes. Des hommes, toujours. Mais rien à voir avec ceux du mur de la rue. Les hommes de cette pièce étaient nus, entièrement nus, et musclés, incroyablement musclés. Ils ressemblaient à Akan, pensa Zizo. À Akan, quand il serait adulte, à la différence près que les statues étaient toutes blanches. Les hommes semblaient être des guerriers. L'un combattait un lion, un autre étranglait un serpent, un autre encore portait un casque, et le dernier, le plus grand, se tenait sur un cheval cabré. Étrange. Zizo se demanda si, en grandissant, il deviendrait un homme aussi fort. Il avait du mal à croire que le petit Zizomis, la souris du tipi, comme tout le monde l'appelait, puisse lui aussi un jour être capable de combattre des bêtes sauvages. Le jeune garçon était partagé entre l'envie de s'approcher encore et la peur qui lui faisait battre le cœur. Il essayait de se raisonner, de ne pas céder à la curiosité. Entrer dans la pièce aurait été trop risqué. Le vent dans son dos le poussait pourtant, ainsi qu'une autre étrange question. Est-ce que Mordelia, du haut du quatrième étage du tipi, au bout de sa longue-vue, le regardait? C'était tout à fait possible, et il trouva cette impression désagréable, tellement désagréable qu'il ne réfléchit pas davantage et se faufila par le trou de la fenêtre pour aussitôt se cacher derrière le socle de la statue la plus proche, celle du soldat qui se battait avec le serpent. Dans la seconde qui suivit, il entendit un rire joyeux qui le surprit, puis des bruits de pas qui couraient sur le sol si lisse et brillant qu'on aurait cru la surface d'un lac. Une fille surgit par la porte et se dissimula aussitôt derrière la statue du cheval cabré. Bizarrement, presque toute trace de peur avait disparu dès que cette fille était entrée. Zizo ne la voyait que de dos. Elle avait son âge, 12 ans donc. Elle n'était ni grande, ni petite, ni forte, ni maigre. Ses cheveux n'étaient ni blonds, ni bruns, ni longs, ni courts. Rien de particulier, si ce n'était cette étrange couronne de fleurs qu'elle portait sur la tête, uniquement composée de roses, et cette respiration forte et essoufflée de petite fille farceuse.
« Alix, t'es où ?»
cria une voix lointaine. La fille pouffa mais ne répondit rien. Zizo comprit, crut comprendre du moins, que la fille à la couronne de fleurs se cachait pour s'amuser. Ça le stupéfia. Les enfants du château, eux aussi, jouaient à loup à vue. Des pas s'approchaient dans le couloir, à l'extérieur de la pièce. Zizo retint son souffle. La fille devant lui, toujours debout derrière la statue du cheval cabré, fixa la porte et bougea d'un mètre sans quitter sa cachette, sans provoquer le moindre bruit pour ne pas se faire repérer. Zizo, dont le cœur s'était remis à cogner très fort, découvrit de trois quarts ses yeux mauves qui pétillaient de malice, les petites taches de rousseur sur ses joues et surtout la grâce avec laquelle elle se déplaçait. Elle semblait glisser sur le sol, un peu comme les cygnes à la surface du grand étang de la forêt quand il était gelé après la veillée du sanctuaire. En la regardant ainsi, Zizo avait l'étrange impression que la fille n'était pas tout à fait humaine, ou plutôt, non, c'était le contraire, qu'elle était beaucoup plus humaine que lui, plus évoluée, plus intelligente, et que c'était lui qui n'était qu'une sorte d'animal sauvage, que la différence entre cette fille et lui devait être à peu près aussi importante que la différence entre lui et un chien errant sur les rives du fleuve. Zizo en avait assez vu. Il savait qu'il devait silencieusement reculer vers la fenêtre et rentrer au tipi. Il reviendrait, il explorerait plus loin, demain. Il avait d'ailleurs déjà fait un pas en arrière quand un détail l'intrigua. La statue du cheval cabré bougeait. Sur le moment, il pensa que c'était l'effet du vent, mais c'était idiot, le vent ne pouvait pas être assez puissant pour faire trembler un tel bloc de pierre. Il pensa alors que c'était peut-être parce que la fille à la couronne s'appuyait sur le socle, mais était-elle assez forte pour cela? Il n'en avait aucune idée. Il constatait juste que le cheval cabré tanguait de plus en plus, et que la fille, occupée à scruter la porte de la pièce, ne s'en était pas aperçue. Une dernière fois, Zizo se dit qu'il devait sortir. Des picotements parcouraient ses jambes et ses bras. Puis tout alla très vite ensuite. La fille fit un pas en avant et se recroquevilla à nouveau, croyant être bien cachée au moment même où la gigantesque statue au-dessus d'elle, sans un craquement, s'apprêtait à basculer. Alors Zizo, sans hésiter, sans se poser de questions, rompant avec toutes les règles de loup à vue, oubliant même qu'il ne jouait plus mais se trouvait au cœur d'un territoire ennemi, fit la pire bêtise de sa vie. Il cria si fort que tous les enfants du château durent l'entendre. Il cria avant que la statue blanche n'écrase la fille en basculant sur elle. Il cria à s'en déchirer les poumons.